Est-ce qu'à un moment ou un autre, tu disais m'engager dans l'armée, c'est une option ou c'était quelque chose qui était complètement à côté de tes préoccupations du moment?
Non, ça n'était pas une option. Pour autant, j'ai été rattrapé par l'armée, parce qu'à l'époque, tu te souviens comme moi que le
Service
service
militaire.
militaire, exactement, le service militaire existe encore. Et donc, il fallait bien que je fasse mon service militaire. Et en fait, comme je ne voulais pas, je connaissais ma capacité à mon risque en tout cas de dispersion, je me suis dit si j'arrête mes études en plein milieu pour faire mon service militaire,
Tu
je les
reviendras
reprendrai
jamais.
jamais.
Ouais.
Et donc j'avais réussi à obtenir un report d'incorporation jusqu'à l'âge de 24 ans, tout simplement en faisant des préparations militaires. Et il y avait un système à l'époque qui s'appelait la préparation militaire supérieure,
La PMS, ouais.
exactement la PMS, qui permettait de repousser le sursis jusqu'à 24 ans. À condition de faire quelques périodes pendant les études. Et la contrepartie, c'est qu'on faisait notre service militaire comme officier appelé. Et donc, c'est ce qui s'est produit à la fin de mes études de droit. J'ai 24 ans. Le moment est venu pour moi de rejoindre l'armée. Mais au départ, dans mon esprit, en tout cas, de manière tout à fait transitoire, juste pour une année. Voilà. Et donc, je rejoins Saint-Cyr Couëtquidan.
Le sous-lieutenant Crozetta.
L'aspirant Crozetta,
Aspirant.
je n'étais pas encore sous-lieutenant à ce moment-là.
D'accord.
Voilà. Et donc, écoute, donc là,
Et Saint-Cyr Couëtquidan, c'est pour les EOR, c'est ça?
c'est pour
C'est
les
les.
EOR, exactement. Voilà. Tu avais les bataillons de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, et puis tu as les trois bataillons de Saint-Cyr, et puis tu as aussi le bataillon EOR, qui est rattaché d'ailleurs à l'ESM Saint-Cyr, mais qui est très à part, puisque lui, enfin, il y avait, puisque tout ça n'existe plus. Et qui formait des
C'est l'école des
jeunes
officiers de
gens,
réserve, c'est ça?
c'est ça, l'école des officiers de réserve, et qui formait donc des jeunes gens qui allaient faire leur service militaire comme appelés. On était destiné à être chef de section dans les compagnies d'instruction des régiments appelés.
Ouais.
Voilà. Et puis finalement, ben écoute, j'allais dire premier cadeau, ou je ne sais pas si c'est le premier, mais en tout cas, un cadeau se présente. Une place est offerte à la Légion étrangère au moment du classement en fin d'année, en fin DOR. Donc on fait
Ouais.
6 mois de classe. Et là, une place est offerte à la Légion étrangère, ce qui ne s'est jamais fait. J'hésite à prendre la place. Le commandant du bataillon insiste.
T'étais bien classé?
Oui, j'étais bien classé. Ben, j'étais deuxième de la promo. Le, le
Wow.
major, le major de promo était inapte pour la Légion. Donc le commandant de bataillon me convoque en me disant, écoutez, si on veut que c'est la première fois de l'histoire des EOR qu'une place est offerte à un aspirant du contingent à la Légion étrangère, en tout cas pour des fonctions qui n'étaient pas des spécialistes. Ils avaient quelques juristes,
Ouais, j'ai
des
des
fonctions
potes
de.
avocats qui ont atterri à la Légion. Ouais.
C'est ça. Donc, mais en tant que chef de section, ça n'existait pas. Et donc il n'avait jamais recruté aux EOR classiques. Voilà. Et donc, il me dit, bah, si on veut que ça se reproduise, il faudrait que le major prenne la place. Mais le major est inapte physique, donc le suivant, c'est vous. Il faut que vous preniez la place. Bon. Et donc, j'ai pris cette place.
Petite
En fait,
pression quand même.
alors un peu de pression et un gros, gros mensonge, parce que moi, je voulais être parachutiste. Et donc je lui dis, mais est-ce que c'est un régiment parachutiste? Non, mais vous savez, à la Légion, tout est possible. Tout est possible. Donc si vous demandez, bah, ils vous feront sûrement sauter en parachute. Bon. Et moi, je
Tu
l'ai
voulais pas
cru.
aller dans les chasseurs alpins?
Non, parce que j'étais déjà moniteur de ski, j'adorais la montagne, je connaissais la montagne, mais j'avais envie de voir la
Autre chose.
mer. Et j'avais remarqué que les régiments parachutistes étaient plutôt dans le sud-ouest, pas loin de la mer. Et puis je voulais sauter en parachute. J'avais fait une préparation militaire parachutiste au départ pour repousser mon sursis. Puis comme ça ne me donnait pas un temps suffisant, j'avais ensuite fait une préparation militaire supérieure. Et donc j'avais adoré cet esprit para, sauter d'un avion. Voilà, moi qui avais besoin de découvrir mes limites, ça faisait partie des choses pour moi à côté desquelles je ne pouvais pas passer.
Oui, puis si ton chef de corps dit que tu vas pouvoir sauter, tu vas pouvoir sauter.
Ah voilà, et donc c'est comme ça que je débarque au 2e Régiment étranger d'infanterie à Nîmes, le 2 ou le 3 octobre, je me souviens plus, 88. C'est le jour des inondations à Nîmes. La ville est saccagée le jour où j'arrive. La ville est saccagée par les inondations. Je
Faut-il
me
y voir
souviens.
une relation de cause à effet? Je ne sais pas.
Non, 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 j'ai failli être puni parce que je suis arrivé 4 heures de retard avec ma tenue complètement Foutu en fait, j'étais en tenue de sortie parce qu'on se présentait en bel uniforme et j'avais traversé comme j'avais pu, il m'a fallu 4 ou 5 heures pour traverser la ville une fois que les eaux commençaient à baisser. Je dis 4 ou 5 heures, c'est peut-être même plus que ça. Et puis les eaux charriaient du mazout, enfin un peu de tout. C'était vraiment une vision apocalyptique. Ça avait fait à l'époque, il y avait eu tout un Paris Match que j'ai encore chez mes parents, qui était consacré à ces premières grandes inondations à Nîmes au cours des 40 dernières années. Voilà, donc je suis arrivé là, dans ce régiment. Très vite, j'ai déchanté, puisque j'ai compris que je ne serais pas chef de section, je ne commanderais pas des hommes, et j'allais me retrouver...
Il n'y a pas d'appelé hein, dans la Légion.
Et voilà, tu as parfaitement raison. Ça ne m'avait pas échappé, mais je...
On peut toujours espérer, tu me diras.
Voilà, j'avais espéré. Donc, je me retrouvais à l'état-major, dans un poste plus ou moins de communication, ou je ne sais pas quoi, qui ne m'intéressait pas du tout. Bon, finalement, j'ai pris mon mal en patience, j'ai porté le béret vert. Les officiers, d'ailleurs, m'ont dit, écoutez, mon jeune ami, vous portez le béret vert, vous êtes appelé, c'est une chance inespérée. Donc, voilà, ne la ramenez pas trop et tout se passera bien pour vous. Vous avez 6 mois à faire chez nous et tout se passera bien. Mmh. Et là, je me suis dit, mais ils ne connaissent pas Raoul, ça ne va pas se passer comme ça.
C'est quoi cette expression?
Oui, c'est dans les tontons fagleurs.
Ah oui, ok, hein, d'accord, ouais. Voilà. D'accord, j'ai remis, j'ai connecté, c'est bon.
Voilà. Et donc finalement, au bout de quelques mois, j'avais fait mon trou dans le régiment. Tous les matins, j'allais faire mon sport, un coup avec une compagnie, un coup avec une autre. Ils m'emmenaient tirer. Et puis au bout d'un moment, le chef de corps m'a proposé plusieurs projets. On a testé à un moment, comme il savait que j'étais moniteur de kayak, il aurait aimé créer une section d'infiltration par kayak. Bon, mais finalement, on a fait quelques tests. Ça fonctionnait pas trop. Mm-hmm. Ensuite, il m'avait demandé de préparer une compagnie qui allait passer les qualifications montagne à Chamonix, ce que j'ai fait. Et donc, petit à petit, pendant ces 6 mois, en fait, j'étais à la fin. Je devais passer, peut-être 2 demi-journées par semaine au bureau. Et le reste du temps, j'étais tout le temps sur avec le les compagnies de combat. C'était génial. Et à ce moment-là, deuxième opportunité se présente à moi, à un mois de la fin de mon service militaire, un mois et demi. Le chef de corps me convoque en me disant, écoutez, voilà, on a un problème. L'officier adjoint de la première compagnie du régiment est tombé gravement malade. Le lieutenant le plus ancien a quitté sa section pour prendre prématurément, avec un an d'avance, le poste d'adjoint. Et aujourd'hui, j'ai une section de combat qui se trouve sans chef de section. Et le prochain plan de mutation est dans presque un an. Et donc, j'ai besoin de quelqu'un. Et si... et j'ai vous sous la main qui avez été formé comme chef de section appelé. Et donc, si vous signez un contrat pour une année de service militaire supplémentaire, je vous offre cette section de combat sur un plateau.
C'est genre volontariat service long, c'est ça?
Exactement. C'était le VSL. Et donc, il fallait que je signe pour 12 mois de plus. Donc, ça m'a amené à faire un service militaire de 24 mois au lieu de 12.
Et tu hésites ou pas?
J'hésite très peu, en fait. Et je vois que on fait des descentes en rappel de nuit sur des j'allais dire un truc, mais on n'avait pas le droit de le faire, donc je vais pas dire ce qu'on faisait. Mais on fait des tas de choses passionnantes, et je me dis
des trucs que tu peux pas faire ailleurs, surtout.
Et commander une section de Légion, ça c'est sûr qu'en dehors de la Légion étrangère, tu ne pourras jamais le faire. Et c'est vraiment un milieu c'est un milieu extraordinaire, très particulier, c'est une exception française, la Légion étrangère. C'est la France est le seul pays à avoir une Légion composée d'étrangers. Et vraiment, il y a une abnégation, il y a un sens de l'engagement, il y a un sens de la famille aussi qui est très très poussé à la Légion étrangère.
Et alors moi, ce qui m'a choqué aussi, c'est un vrai respect de la hiérarchie. Enfin là, ça rigole pas. Le chef, c'est le chef. Hein.
Oui, c'est vrai. Alors la limite que ça, moi je l'ai vu quand je suis devenu chef de section, c'est que du coup... Moi, mes hommes, en tout cas, m'ont toujours marqué un profond respect. Je ne sais pas si tous le ressentaient à l'époque, parce que pour être tout à fait honnête, même si j'ai la chance d'avoir eu un commandant de compagnie quand j'ai rejoint donc cette compagnie qui m'a beaucoup formé, j'étais encore un jeune gamin, voilà, j'avais 25 ans, j'étais un peu immature encore, j'avais des choses à me prouver et à prouver au monde. Je n'avais pas été très bien préparé, parce que c'est pas en 6 mois de classe à Saint-Cyr-Couët qu'il est, enfin en tant qu'EOR, que tu es pleinement formé pour être chef de section de combat à la Légion, avec tous les équipements, tous les matériels, tous les savoir-faire et toute l'expérience qu'on s'est gala par rapport à moi. Et donc, j'étais un jeune officier assez arrogant, assez rigide, un peu imbu de sa personne, extrêmement exigeant. Et ça, tu vois, c'est aussi quelque chose que j'avais tiré de mon expérience de l'enfance. C'est-à-dire que moi, tout ce que j'ai réussi à partir du moment où j'ai décidé de changer ma vie à 9 ans, et puis qu'à 12 ans, j'arrête le régime, et puis je peux me remettre à avancer différemment sur ce chemin de vie. À partir de là, je vais le faire en serrant les dents, à la force de la volonté. Et du coup, je suis devenu extrêmement exigeant envers moi, et sans m'en rendre compte, je suis aussi devenu très exigeant envers les autres.
Oui.
Et j'avais fini par croire que, bah, du coup, si moi je peux le faire, les autres doivent le faire aussi, comme si j'étais devenu le maître étalon. Alors, je sais pas. En tout cas, ça, je pense que ça n'a pas été rose tous les jours pour eux. Et voilà, avec le recul, j'en éprouve beaucoup d'empathie pour eux, parce que vraiment, franchement, c'est pas de la fausse modestie, je pense que j'étais vraiment un mauvais jeune chef de section. J'ai appris énormément pendant ces 18 ans d'armée, autant à la fin de ma carrière, quand je quitte l'armée dans les forces spéciales, le regard que portent mes hommes, mes pères et mes chefs sur moi, et moi-même, sur mon style de commandement, est plus du tout le même. Je pense que je suis un officier reconnu, respecté, pour sa bienveillance et son exigence, pour sa capacité à emmener les équipes, se dépasser et atteindre des objectifs. Bon, mais ça n'était pas le cas quand j'étais un jeune officier. Je pense que mes chefs voyaient bien en moi un homme talentueux, qui avait pas mal de capacités, et en même temps, je voyais bien que souvent, on me faisait comprendre que j'étais un peu excessif, un peu rigide. Voilà. Et donc, j'ai appris à mes dépens.
Mais est-ce que ça ne correspond pas aussi à l'esprit de la Légion où on pousse les curseurs, on suit l'ordre, on avance, et puis, on ne réfléchit pas trop, quoi.
En tout cas, rien ne t'y oblige. C'est-à-dire que, oui, le système fait que les hommes te suivent comme un seul homme. Ça, c'est vrai. C'est une des forces de la Légion. Maintenant, rien ne t'impose en tant que chef d'être un chef exigeant à l'excès et manquant de bienveillance. Tu vois, tu peux aussi être les deux. Ça, je suis pas en train de dire qu'il faut faire de la démagogie, qu'il faut être un copain. Non, ça n'aurait absolument aucun sens. Et ça n'est pas ce qui est attendu de ce type d'unité. Et puis, c'est aussi des gaillards qui ont du tempérament. Mais ça n'empêche pas d'être profondément humain et bienveillant. Et moi, je manquais de cette humanité. Voilà. Ouais. En tant que jeune officier, j'avais beaucoup de croyances, j'étais pétri de plein de certitudes, dont beaucoup se sont craquelés, fracturés au fil des expériences, y compris parfois les plus douloureuses. Mais en même temps, c'est ce qui m'a permis d'évoluer.
Et tu es parti en opération avec la Légion, quoi.
Oui, on est parti en opération plusieurs fois en Afrique. Ça, c'est quand j'étais donc au deuxième étranger, pendant cette année que je vais passer en tant qu'aspirant, puis sous-lieutenant, chef de section de la deuxième section de la première compagnie du deuxième régiment étranger d'infanterie. Voilà. Et puis du coup, dans cette année-là, et d'ailleurs pendant qu'on est en opération pendant plusieurs mois au Tchad, avant qu'on parte en opération, le chef de corps me parle en fait d'un concours dont j'ignorais l'existence, qui permettait à l'époque à l'armée de recruter 2% de ses officiers sur titre universitaire. Et donc, ça me permettait, si je réussissais ce concours, de rejoindre ensuite une promotion de Saint-Cyrien qui quittait Saint-Cyr, de retourner en école d'application 1 an avec eux, et puis ensuite d'être réinjecté en régiment en fonction de mon classement de sortie et d'avoir le déroulement de carrière d'un officier d'active. C'est donc ce que j'ai fait. Et donc, pendant qu'on était au Tchad...
Et là aussi, pas d'hésitation ? Ou pas trop?
Si, alors bon, là j'ai un
petit... Parce que là, t'as tourné la clé, tu sais que tu y vas, quoi, hein, pour un bon moment, quand même.
Oui, mais tu vois, là encore, je me dis, écoute, je sais pas encore très bien quel concours, tu vois, la magistrature, et en même temps, ça me paraissait un concours, j'étais pas sûr de vouloir être magistrat, puis ça me paraissait un concours extrêmement difficile. Il y avait un concours qui m'intéressait, qui était le concours de commissaire de police, mais en même temps, la police, moi, je m'imaginais à l'anti-gang ou dans des choses comme ça, mais l'idée d'être commissaire de province ne m'intéressait pas. Donc ouais. En fait, je ne savais pas encore très bien ce que je voulais faire, et donc je me suis dit, mais génial, en fait, la vie me propose de m'amener d'autres opportunités. Si je réussis, eh ben génial, alléluia, je rentrerai dans cette carrière-là, et si j'échoue, je me repose.
Tu ça décides bien, d'entrer dans la carrière, en tout cas de la tenter.
Je décide, exactement, je décide de tenter ce concours, et peu après, on part au Tchad. Et donc, pendant qu'on est au Tchad, je me souviens que ma compagnie, nous étions une compagnie isolée à Abéché, à la frontière du Soudan. Les rebelles, à l'époque, Idriss Déby, qui est l'actuel président de la République, était à la tête d'une armée de rebelles au Soudan. Et il menaçait en permanence d'envahir le pays pour renverser Hissène Habré. Ce qui s'est fait un an plus tard, je crois. Je ne me souviens plus du nombre de mois précisément, mais en tout cas, peu après nous. Et puis le reste du régiment était à N'Djamena, et moi, tous les mois, je revenais à N'Djamena en avion avec la liaison. Je faisais, il y avait une liaison qui faisait un aller-retour pendant 48 heures, et pendant un mois, j'avais des tas de sujets à préparer que me donnait le chef du bureau opération, qui avait fait l'école de guerre et qui me préparait donc pour ce concours, parce que le chef de corps lui en avait donné la mission. Et franchement, je lui dois une énorme chandelle à cet officier.